Si on prend la bonne habitude. De demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous conduire, pour que les paroles qui vont être dites soient vraiment inspirées de l'Esprit et qu'elles fassent son œuvre, une œuvre profonde, pas quelque chose de superficiel qu'on a oublié aussitôt la porte du temple passé. Voilà, c'est vraiment la volonté du Seigneur que la parole de Dieu creuse en profondeur les choses que Dieu veut nous faire comprendre profondément. Alors prions Dieu. Oui, que ferions-nous, Seigneur, avec notre intelligence capable de faire des calculs pour prévoir l'arrivée d'une comète ou bien envoyer des hommes sur la Lune et penser les envoyer sur Mars. Il faut beaucoup d'intelligence pour cela. C'est ton œuvre aussi en nous, Seigneur, cette intelligence que les hommes ont développée. Mais il y a une autre intelligence qui seul permet de comprendre ce que dit ta parole. Non seulement elle permet de la comprendre, mais elle nous permet aussi d'essayer de la vivre. Et cette intelligence, c'est celle de ton Saint-Esprit en nous, Seigneur, cet esprit que tu as déversé en nous, comme l'avaient annoncé les prophètes. Alors, sois à l'œuvre, Esprit Saint, dans nos cœurs et dans notre intelligence, maintenant. Amen. Alors, je vais vous lire deux courts passages. Le premier, c'est dans Nombre, au chapitre 12. Ça sera un verset simplement. Je remets ce verset dans le contexte. Dans son contexte, il y a Myriam et Aaron qui trouvaient que c'était complètement anormal qu'il n'y en avait que pour Moïse, en quelque sorte, voilà, et qui se sont mis en colère contre Moïse, et puis Moïse, et Dieu, il n'a pas du tout aimé ça. Donc il arrive des gros problèmes à Myriam, qui a la lèpre, et qui a cette lèpre et qui la garde pendant une semaine, je crois. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset 3. Qu'est-ce que dit le verset 3 ? Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Voilà, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Et le deuxième passage que je vais vous lire, c'est le même que Matthias a pris il y a deux semaines, je crois. Voilà. C'est Matthieu 11, versets 28 et 29, mais je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Matthias. Je vais prendre un autre thème qui est, bien entendu, dans ce verset. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » C'est ça que je vais retenir. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Voilà, donc ce matin, vous l'avez peut-être compris à travers la liturgie de notre sœur Anne, nous allons nous pencher sur le sens que la Bible donne à deux mots, le mot humilité et le mot douceur. Pour comprendre le mot humilité, je vais d'abord parler de la rencontre de Moïse avec Dieu au buisson ardent. C'est-à-dire 40 ans après que Moïse se soit enfui d'Égypte, après avoir tué, vous vous en souvenez, un Égyptien qui maltraitait un de ses frères hébreux. On voit ça dans Hébreux 2, 11 à 15. Donc au début de l'épisode du buisson ardent, Dieu se révèle à Moïse et on lui dit qu'il se cache le visage car il n'est pas à l'aise de se trouver dans la présence divine. Mon petit commentaire, c'est « on peut le comprendre ». Puis Dieu lui confie une mission. « Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse n'est pas très chaud pour obéir. « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il ne se sent pas capable de faire ce que Dieu lui demande. Peu après, au verset 14, Dieu demande à Moïse d'aller parler au peuple pour lui dire « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Mais Moïse répond « Mais ils ne croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. » C'est le même sentiment d'incapacité qui le fait parler ainsi. Alors Dieu lui donne trois signes pour lui faire comprendre que Dieu lui-même l'accompagnera dans la mission qu'il lui confie. Souvenez de son bâton qui se transforme en serpent, sa main qui se couvre de lèpre mais qui est immédiatement guérie, et l'eau du Nil que Moïse doit verser sur la terre et qui va se transformer en sang. On pourrait penser qu'avec ces signes hors du commun, Moïse fasse enfin confiance à Dieu. Eh bien non. Cette fois-ci, Moïse objecte qu'il a des difficultés pour parler et il s'écrie « Ah Seigneur, mais envoie qui tu veux !» Alors le texte nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il lui annonce qu'il sera assisté de son frère Aaron, qui deviendra son porte-parole. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche, et moi je serai avec sa bouche et avec ta bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Dans la compréhension courante de ce qu'est l'humilité, on pourrait penser que c'est dans ses refus successifs d'obéir que Moïse se montre humble. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas capable de faire ce que Dieu lui demandait. Il n'a qu'à se mettre 5 minutes à sa place. Il faut voir ce que nous aurions fait, nous. Je pense que nous sommes nombreux à nous reconnaître dans l'attitude de Moïse. Dieu nous demande de faire quelque chose, mais nous ne nous sentons pas capables et pensons que c'est par humilité que nous refusons. En fait, l'attitude de Moïse n'a rien à voir avec l'humilité. En réalité, c'est une forme cachée d'orgueil. Je parle de forme cachée d'orgueil, car en effet, l'orgueil peut se manifester de deux façons opposées. Soit en se vantant d'être capable de tout faire mieux que les autres, exemple d'une phrase que j'ai entendue, « Quand on est le meilleur et qu'on le sait, pourquoi ne pas le dire ?» Soit en prétendant qu'on n'est pas capable de faire ce que Dieu demande. Les refus réitérés de Moïse à la demande de Dieu font partie de la seconde catégorie d'orgueil. Mais alors, comment expliquer le paradoxe de l'orgueil qui se cache derrière la fausse modestie? C'est assez simple. À ce moment de sa vie, Moïse envisageait d'agir en ne se servant que de ses propres capacités et ses propres forces. Son éducation au palais du Pharaon, centre du pouvoir absolu, n'était sans doute pas étrangère à sa tournure d'esprit dans ce domaine. C'est un tout autre Moïse que nous retrouvons dans les chapitres qui suivent. On voit Moïse faire tout ce que Dieu lui demande. Cela viendrait-il du fait que les missions que Dieu lui confie sont plus faciles ? Ah non, au contraire. Alors, qu'est-ce qui a changé ? C'est exactement le même homme. Mais, au lieu de se fier à ce qu'il pense être capable de faire, Moïse va désormais faire confiance à Dieu. Et jour après jour, il fera ce que Dieu lui demandera de faire. Au lieu de placer sa confiance en lui-même, il la place désormais en Dieu. Eh bien, frères et sœurs, c'est cela l'humilité. Dépendre de Dieu, compter sur Dieu, s'attendre à Dieu. L'orgueilleux attend tout de lui et en fait soit un motif de satisfaction personnelle, soit une bonne excuse pour refuser. L'homme humble, lui, attend tout de Dieu et en fait un motif de reconnaissance, et cela fait grandir sa foi et sa confiance en Dieu. Nous avons dans les évangiles le modèle d'un homme parfaitement humble. Et cet homme, c'est Jésus. Je parle de Jésus homme, car nous avons trop tendance à uniquement voir en Jésus le Fils de Dieu. Bien sûr, il est le Fils de Dieu. Mais lorsqu'il était sur terre, il était vraiment homme. À part le péché, il a tout connu de ce que les hommes connaissent. La faim, la soif, les tentations, la fatigue, la joie, la tristesse, le rejet, le mépris, la douleur, la souffrance, la mort. Et c'est bien parce qu'il a partagé tout ce qu'un homme peut connaître que les hommes de toutes les générations peuvent s'inspirer de la façon dont il a vécu sur terre. S'il n'avait pas pris et partagé notre nature humaine, s'il avait été seulement Dieu lorsqu'il était sur terre, comment les hommes pourraient-ils espérer lui ressembler, essayer de vivre comme il a vécu? Inconsciemment, on pense qu'il a résisté au diable, c'est normal, il était Dieu. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, c'est normal. Il était Dieu. Il a chassé les démons, mais c'est normal. Il était Dieu. Non, frères et sœurs. Sur terre, Jésus était un homme au même titre que vous et moi. Sur terre, Jésus n'avait pas de pouvoir à lui. Il n'en avait pas plus que vous et moi. Il s'est uniquement servi de la puissance et de l'autorité qu'il recevait de son Père. Exactement comme chaque croyant peut le faire s'il manifeste la même humilité que Jésus. C'est la raison pour laquelle la même autorité que Jésus recevait de son Père a opéré tout au long des siècles et opère encore aujourd'hui. Guérison, miracle, délivrance, à travers des chrétiens humbles. Pour comprendre cela, et il est très important de le comprendre, n'oublions jamais ce que Jésus a dit à ses détracteurs après la guérison de l'infirme de Bethesda concernant la puissance qu'il avait manifestée. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Jean 5. Gravons cela dans notre esprit. Sur terre, Jésus n'a jamais rien fait par lui-même. Il a tout reçu de son Père. C'était cela la preuve de son humilité. Il attendait tout du Père. C'est le chemin sur lequel nous, les croyants, nous sommes invités à marcher. S'attendre à Dieu, être dépendant de Dieu, être soumis à Dieu. Car c'est seulement avec des chrétiens humbles que Dieu pourra réaliser ses plans. Alors cela étant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Sur terre, Jésus était vraiment homme, c'est vrai, mais il était aussi de nature divine, ce que nous ne sommes pas. Il est né d'une femme, comme nous tous, mais lui, il a été conçu par l'Esprit, pas nous. Il est mort comme nous mourrons tous un jour. Mais sa mort sur la croix a servi au salut des hommes, pas la nôtre. J'espère que cela est bien clair pour tous. L'humble attitude qui, comme je l'ai dit, consiste à s'attendre à Dieu, à dépendre de Dieu, n'a rien à voir avec la passivité. La passivité, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Le Moïse de la sortie d'Égypte n'a jamais été passif. Paul non plus, pas plus que Jésus. L'Esprit Saint a été répandu sur les hommes depuis la Pentecôte. Qui a été répandu sur les hommes depuis la Pentecôte n'est pas un esprit de confinement ou de passivité. C'est au contraire un esprit qui rend les hommes actifs au service de Dieu, par l'amour, la puissance et l'autorité qu'ils reçoivent de Dieu. Que veut dire être actif au service de Dieu? Cela veut dire manifester de l'amour aux autres hommes. Car c'est en aimant et en servant les hommes qu'on se met vraiment au service de Dieu. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit à ce sujet. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25. Et souvenons-nous aussi, comme nous l'a dit Pierre Ledan il y a 3 semaines, que vouloir aimer avec ses propres forces est peine perdue. Nous ne pouvons vraiment aimer les autres que lorsque nous recevons cette capacité de Dieu lui-même. Là aussi, nous devons faire preuve d'humilité, c'est-à-dire compter sur Dieu, s'attendre à lui. N'oublions jamais ce que Jésus a dit en commentant la parabole du cep et des sarments. « Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15. Je vous propose maintenant de voir ce que la Bible entend par le mot « douceur ». Je remarque que lorsqu'il parle de lui dans le texte de Matthieu, Jésus associe douceur et humilité. « Je suis doux et humble de cœur », dit-il. Je veux souligner que la douceur est mentionnée dans ce que Paul appelle le fruit de l'esprit, en Galates 5. Il ne s'agit donc pas de la douceur d'un soir d'été, ni de celle d'un carré de chocolat sur le palais, ni même d'une douceur de caractère qui ressemble à la passivité ou à la fuite devant le moindre désaccord ou conflit. La douceur de la Bible vient de l'Esprit. Elle est intérieure et elle est reçue de Dieu lorsqu'on marche par l'Esprit. Dans sa première épître, Pierre parle de la douceur comme, je cite, « la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. » 1 Pierre 3. Mais à qui Pierre recommande-t-il de faire preuve de cette douceur-là? Aux épouses qui ont des maris incroyants, afin de les gagner à Christ et sans parole. C'est dire à quel point la douceur peut être puissante et transformer un cœur, y compris un cœur incrédule. Est-ce étonnant, puisque ce trait de caractère fait partie du fruit de l'esprit? Nous pouvons donc tirer un enseignement. Cette douceur-là n'est pas liée aux circonstances. Elle n'est pas fluctuante. Elle n'est pas feinte non plus. Elle est reçue et fait partie de l'être profond lorsque le croyant laisse libre cours à l'esprit en lui. Je viens de mettre en garde contre une douceur feinte. En effet, avec un peu d'entraînement et beaucoup d'hypocrisie, il est relativement facile d'afficher une attitude sereine et des paroles apparemment douces à l'occasion d'un conflit entre membres d'une famille ou d'une église. L'affichage extérieur est peut-être parfait, mais qu'en est-il côté cœur? Nous avons tous expérimenté qu'il y a souvent un hiatus entre ce que nous affichons extérieurement et ce que nous vivons intérieurement et la tempête que cela engendre peut durer longtemps, hélas. Lorsqu'on entretient de la rancune, lorsqu'on a envie de se venger, même si on ne le fait pas, simplement l'envie. Lorsqu'on élabore une stratégie pour prouver à l'autre qu'il a tort, c'est la preuve formelle que nous avons beaucoup de chemin à faire pour être doux comme Jésus. Pour Jésus, la trahison de Judas ou le reniement de Pierre n'ont pas déclenché des tempêtes dans son cœur. Il ne s'est pas départi de sa douceur lorsque les principaux sacrificateurs et les scribes l'accusaient avec véhémence pendant son procès, ou lorsque Hérode et ses gardes le traitaient avec mépris et se moquaient de lui, Luc 23, ou lorsque, déjà crucifié, il adressait cette prière à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourquoi Jésus est-il resté le même? Parce que la relation avec son Père était tellement au cœur de sa vie que rien ne pouvait l'altérer, même pas les injustices et le mépris dont il a été victime. Alors cette douceur de Jésus, celle qu'il avait réellement vécue, est-ce qu'elle est hors de notre portée? Eh bien, si nous répondons oui, cela voudrait dire que le Saint-Esprit dont Jésus était rempli n'est pas le même que celui dont nous sommes remplis. Dit comme ça, nous voyons bien que c'est stupide. Il n'y a qu'un seul Esprit. Si l'Esprit Saint ne produit pas en nous la douceur qu'il produisait en Jésus, cela veut certainement dire que nous ne le laissons pas agir en nous comme Jésus le laissait agir en lui. Et l'explication la plus probable, c'est que l'Esprit Saint trouve des obstacles dans nos vies, ce qui l'empêche d'agir comme il voudrait. Je remarque que Jésus n'a pas seulement dit qu'il était doux. Il a précisé « Je suis doux et humble de cœur ». Est-il possible de dissocier douceur et humilité? Non, car ces deux attitudes sont la preuve d'une relation intime avec Dieu par l'Esprit Saint qui agit en nous et qui agissait bien sûr en Jésus. Ainsi, l'humilité et la douceur sont associées l'une à l'autre dans la parole de Jésus, mais aussi dans une parole de Paul qui parle de la vocation du chrétien. Je cite, « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute douceur et humilité, avec patience. » Ephésiens 4. Il est impossible que l'humilité qui dispose le cœur de l'homme à ne s'attendre qu'à Dieu, n'entraîne pas avec elle la douceur, et vice-versa. Dans le cas contraire, il faut s'interroger sur les réalités de notre douceur et de notre humilité. Chers frères et sœurs, vous ne vous sentez pas doux et humble comme Jésus? Tiens donc, comme c'est bizarre. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Lui demander encore et encore cette douceur et cette humilité, en laissant au Saint-Esprit de plus en plus de place dans nos vies. Père Céleste, fais-nous comprendre que ces deux mots, douceur et humilité, sont importantes dans la vie d'un croyant. Quand tu nous fais comprendre que nous en manquons de cette douceur, et que nous manquons aussi d'humilité, fais-nous aussi comprendre, Seigneur, que ce n'est pas pour nous écraser, pour dire « Tu t'es regardé, toi ? Toi qui invoques mon nom, chaque jour ?» Non. Jamais Dieu ne fera ça. Mais Dieu veut nous faire prendre conscience de la puissance que la douceur et l'humilité peuvent avoir dans la vie d'un chrétien pour servir la gloire de Dieu, tout simplement. Alors Seigneur, permets que nous comprenions bien ce que tu attends dans le domaine de nous, dans le domaine de l'humilité et de la douceur. Et que notre prière, Seigneur, soit fervente, honnête, claire, précise, pour te demander d'être ce que tu étais, Seigneur, pour la gloire de ton Père.